Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 19 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine et on parlera aussi de la fête de la musique. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Tout d'abord, les grands titres de ce 19 juin, le gouvernement australien renouvelle son engagement à réduire les factures d'électricité au milieu d'un jeu de blâme entre les travaillistes au pouvoir et l'opposition fédérale sur la crise énergétique. Le drapeau aborigène flottera en permanence sur le Sydney Harbour Bridge d'ici la fin de l'année. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine pourrait continuer pendant des années. En Australie, les deux principaux partis sont en désaccord sur ce qui est responsable de la crise énergétique en Australie. Les travaillistes disent avoir hérité du problème du gouvernement précédent qui, selon eux, n'a pas investi dans les énergies renouvelables au cours de la dernière décennie. L'Australie dépend encore largement du charbon en tant que principal fournisseur d'énergie, mais la plupart des centrales au charbon du pays sont soit hors ligne, soit menacées de fermeture. Le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, a déclaré sur ABC Insiders ce matin qu'il y avait une faute partout et qu'on ne pouvait pas simplement injecter plus d'énergie renouvelable dans le réseau.
We were agnostic in terms of the technology or the energy source for it. This is the point. Labor would have turned off coal years ago. Their argument, Chris Bowen's argument, still is this very day to exclude gas and coal. This is an argument over the last fortnight about firming up.
Le ministre de l'Emploi, Tony Burke, a déclaré sur Sky News que réparer 10 ans de négligence prend du temps.
Renewables are the cheapest form of energy, but if you want to get your renewables and your battery storage onto the grid, you need to improve transmission. The energy market organisations have been putting this forward for a long time. Previous government refused to act. It's a significant part of the problem right now. It'll deliver that downward pressure on prices. We'll get it done.
Le drapeau aborigène flottera en permanence sur le Sydney Harbour Bridge. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud engage 25 millions de dollars pour installer un troisième mât d'ici la fin de l'année. Cela signifie que le drapeau aborigène flottera aux côtés des autres drapeaux des États australiens et de la Nouvelle-Galles du Sud. On écoute Dominique Perrottet, le chef de l'État.
I'm even surprised it takes this long. I mean, I made the announcement a while ago, and the first brief that came back was it'd probably take 2 years to do. I mean, I'll climb up there, I'll go to Bunnings myself, I'll climb up there and put the pole up. But apparently it does. Apparently that's the costing. And I think it's an important decision that we've made. I think it brings unity to our country. And it's a small price to pay for that unification.
C'est la journée mondiale des réfugiés, même si elle commence officiellement demain, lundi 20 juin. Les défenseurs des réfugiés demandent au gouvernement fédéral de s'occuper du statut de visa de milliers de réfugiés avec des visas temporaires. Le directeur général du Conseil des réfugiés en Australie, Paul Power, a déclaré que le gouvernement devrait promulguer de toute urgence son engagement d'accorder des visas permanents aux personnes bloquées dans le programme de protection temporaire.
We hope that within coming months the new government will be able to act on that promise. So there are 19,000 people who have refugee status but only have temporary protection who are part of the boat arrivals group. There's also around 1,100 people who've been transferred on a temporary basis, supposedly, from PNG and Nauru, who are part of offshore processing.
L'Australie a accueilli plus de 900 000 réfugiés au cours des 75 dernières années. Le réfugié iranien et psychologue Reza Rostami appelle le gouvernement à concrétiser de toute urgence sa promesse d'accorder des visas permanents aux personnes bloquées dans le programme de protection temporaire.
Living in limbo is very bad because you don't know planning for future in terms of job. In terms of education, we don't have right to access the all Australian community issues. For parents, experience all the time anxiety for children, experience anxiety for job security.
Un hiver froid, des prix de location élevés ainsi que la circulation du COVID-19 et de la grippe ont emmené les services de soutien à demander plus d'aide pour les sans-abri en Australie. Les données suggèrent qu'environ 100 000 personnes sont actuellement sans-abri. Wayside Chapel cherche un soutien urgent du public pour aider les personnes en crise cherchant un abri ou dormant dans la rue. Le PDG de Wayside Chapel, le pasteur John Howen, a déclaré à ABC Breakfast que les personnes qui dorment dans la rue sont sur le point de tomber dans l'itinérance à long terme.
Tuesday night is the longest night of the year and it's the coldest night of the year as we head into the winter solstice. So over the last few weeks, as the weather has turned colder and electricity bills are starting to pile up, we're seeing about 150 people a day coming into our centres in Bondi Beach and King's Cross seeking love, support and some warmth. Coming out of the last 2 years of lockdowns, we would expect to see the same faces, but we're seeing new faces every day in both of our centres.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine pourrait continuer pendant des années. Il a également déclaré que la fourniture d'armes de pointe aux troupes ukrainiennes augmenterait les chances de libérer la région du Donbass du contrôle russe. Des responsables à Kiev ont déclaré qu'ils prévoyaient de reprendre les pourparlers de paix avec la Russie d'ici la fin du mois d'août. Vitali Klitschko, ancien champion de boxe et maire de Kiev, affirme que le pays sera en meilleure position pour négocier.
We'll be ready to talk with Russians about some compromise. If last Russian soldier left Ukraine, it will be time to talk, but not yet. Russians have to go.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a visité la ville portuaire d'Odessa et la ville méridionale de Mykolaiv. Une vidéo diffusée par le bureau du président visitant des bâtiments endommagés où des travaux de construction sont en cours. Monsieur Zelensky a également rencontré des soldats sur la ligne de front au sud du pays. Reportage Pauline Godard pour RFI.
Le président Zelensky se déplace rarement hors de Kiev depuis le début de la guerre pour des raisons de sécurité. Cette visite s'est déroulée dans le plus grand secret. Il s'est rendu dans le sud du pays, à Mykolaiv, une ville régulièrement bombardée par les Russes. Elle se trouve sur la route pour se rendre à Odessa, un des grands ports du pays et non loin de la région de Kherson occupée par les Russes. Volodymyr Zelensky a visité un immeuble endommagé par des tirs de missiles russes. Il a ensuite assisté à une réunion avec des responsables locaux. Puis il a rencontré le personnel d'un hôpital de la ville. Il les a remerciés pour leur aide précieuse, leur courage et leur a remis des médailles. Dimanche en Ukraine, c'est la journée nationale pour rendre hommage au corps médical. Cette visite était une façon pour le président Zelensky de rassurer ses citoyens et de montrer qu'il est bien à la tête de tout le territoire ukrainien libre.
Une vidéo russe a été diffusée montrant deux Américains, deux volontaires capturés en Ukraine par les forces pro-russes. Précision de Juliette Gerbrand pour RFI.
Assis dans un bureau, le combattant Alexander Drucke, 39 ans, barbe au poivre et sel, s'adresse à sa mère. Je veux juste te dire que je suis en vie et que j'espère être de retour aussi vite que possible, dit-il face à la caméra. Dans une autre vidéo, Andy Huyn, 27 ans, tient des propos favorables à la Russie. Il aurait été filmé dans un centre de détention du Donbass, selon Russia Today. Les deux hommes combattaient près de Kharkiv. Selon la chaîne ABC News, 25 Américains se trouvaient sur place le mois dernier dans un bataillon de la Légion étrangère ukrainienne. Peu après la publication des vidéos, le président Joe Biden a dit ne pas savoir où se trouvaient les combattants.
But I want to reiterate, Americans should not be going to Ukraine.
Et je le répète, a-t-il insisté devant la Maison Blanche, les Américains ne doivent pas aller en Ukraine. Un troisième Américain serait porté disparu selon Washington, qui exige que tout combattant soit traité comme prisonnier de guerre. Alexander Drucke et Andy Huhn sont a priori détenus par les séparatistes du Donbass et considérés comme mercenaires. La semaine dernière à Donetsk, deux combattants britanniques et un Marocain ont été condamnés à mort pour tentative de renversement du gouvernement.
Le forum économique de Saint-Pétersbourg en Russie a pris fin hier et l'Inde était présente, comme nous l'explique Combastin pour RFI.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde a fait passer la part de pétrole russe dans son approvisionnement en hydrocarbures de 1% à 18%. Pour Biswajit Dar, spécialiste du commerce mondial à l'université JNU de New Delhi, ce forum est l'occasion pour l'Inde de s'implanter en retour sur le marché russe.
À cause des sanctions, le marché russe souffre de pénurie. Or, l'Inde dispose d'un secteur manufacturier très divers. Elle pourrait en particulier fournir des médicaments, mais aussi des équipements électroniques à la Russie.
Pour contourner les obstacles bancaires liés aux sanctions, Moscou et New Delhi discutent d'un nouveau mécanisme de paiement en roubles contre roupies. Biswajit Dar.
La balance commerciale de l'Inde à l'égard de la Russie est très déficitaire, mais cela pourrait être compensé par des investissements russes en roupies en Inde.
Ancien ambassadeur en Russie et conseiller à la sécurité nationale, P.S. Raghavan justifie la position diplomatique indienne.
Si même l'Inde s'aligne sur l'OTAN et les sanctions occidentales, nous allons pousser la Russie dans les bras de la Chine. Or, un tel axe hostile Russie-Chine ne bénéficierait à personne.
Alors que l'Inde fait elle aussi face à une importante inflation, peu de voix s'élèvent dans la classe politique contre ce rapprochement commercial avec la Russie.
Les conséquences de la guerre en Ukraine avec en Grande-Bretagne, où l'inflation a atteint plus 9%, le plus haut niveau en 40 ans. Hier, des milliers de personnes ont manifesté à Londres. Reportage Marie Boéda pour RFI.
Rachel s'assoit sur un petit muret en pierre, juste à côté de la statue de Winston Churchill. La marche vient de se terminer sur Parliament Square, à deux pas de Westminster, le quartier du gouvernement. Cette ancienne infirmière est venue en famille, avec ses deux filles et son petit-fils.
Nous sommes tous préoccupés par ce qui va se passer en octobre lorsque le prix de l'énergie augmentera à nouveau. On achète dans différents endroits maintenant, on planifie nos repas. Et autour de nous, les gens font pareil. Je ne fais plus beaucoup de manifestations, mais j'ai senti que j'avais besoin de faire celle-là.
Jill est membre de Unite, le plus grand syndicat du Royaume-Uni. Elle diffuse un message, le même que celui de ses collègues. Boris Johnson doit partir.
Nous avons vécu 10 ans d'austérité. Maintenant, nous sommes confrontés à une crise du coût de la vie. Ce n'est pas la faute des travailleurs, c'est la faute du gouvernement. Et ce n'est que le début de la résistance.
La syndicaliste fait allusion à la grève des transports la semaine prochaine, la plus grande depuis des décennies. Des dizaines de milliers de travailleurs comptent protester contre l'inflation et les suppressions de postes dans leur secteur. Tout le pays devrait être paralysé pendant plusieurs jours.
Le second tour des élections législatives en France, c'est ce dimanche. Les Français de l'Outre-mer ont commencé à voter dès hier samedi. Et les Colombiens, eux, votent ce dimanche pour élire leur président entre deux candidats, Gustavo Petro de la gauche et Rodolfo Hernandez indépendant. Les deux candidats sont au coude à coude selon les sondages. Reportage Marie-F de Teuf pour RFI.
Gustavo Petro et Rodolfo Hernandez se disent tous les deux anti-système. Le premier parle justice sociale et fait très peur à la droite. Le deuxième, qui a pour seul programme de mettre tous les corrompus en prison, effraie les démocrates. Pour les électeurs qui ne veulent ni d'un ancien guérillero converti à la social-démocratie, ni d'un millionnaire fantasque, le vote blanc est possible. Pilar, 65 ans, retraité.
J'y ai pensé un moment, mais j'ai rapidement éliminé cette option. Nous devons choisir. Je suis centriste, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Je voterai pour Petro avec réticence.
Javier Garay, professeur universitaire, a lui aussi voté pour un candidat centriste au premier tour.
Je vais voter pour Rodolfo Hernandez, non par conviction, mais parce qu'il me semble être un moindre mal face à Gustavo Petro. Je sais le danger qu'il représente et ses lacunes, mais je crois que Hernandez pourrait être plus facilement contrôlé par tout l'échafaudage institutionnel.
Dans ce pays historiquement gouverné à droite, rarement une élection avait été aussi serrée et aussi suivie, aussi pleine d'espoir pour ceux qui votent avec conviction et aussi inquiétante pour les autres.
En Afrique, en République démocratique du Congo, la Commission épiscopale nationale du Congo déplore la montée de la violence dans l'est du pays. Explication Alexandra Lagarde pour RFI.
C'est spécifiquement aux alentours de Goma. Pour rappel, vendredi, un soldat congolais a été tué, deux policiers rwandais blessés au poste frontière de la petite barrière entre les deux pays. La CENCO appelle les parties à la cessation des hostilités et à s'engager sur la voie du dialogue via la voix de Mgr Donatien Chol, le secrétaire général de la commission. Il était à Lubumbashi hier en marge du colloque sur le vivre ensemble organisé par l'archevêque de Lubumbashi.
Le président de la CENCO a lancé un message il n'y a pas longtemps dans lequel il invitait à tous ceux qui sèment la désolation à l'Est, particulièrement à Goma, de cesser avec les armes. La violence ne sera jamais une solution à nos contentieux. Il y a d'abord le devoir de se convertir parce que qui tue pêche, il doit se convertir. Il y a le devoir de dialoguer là où c'est nécessaire. Mais là, ce qui me fait craindre personnellement, c'est aussi cette tendance à de l'inimitié qui commence à croître entre les Congolais et nos frères voisins. Donc, il ne faudra pas que nos revendications puissent prendre le dessus sur la parole de Dieu qui nous invite à vivre ensemble.
Et on passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 19 degrés, Adélaïde 17, Melbourne 16, Hobart 14, Canberra 15, Sydney 19, Brisbane 23, Darwin 33 et à Alice Springs, maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 19 juin. Le gouvernement australien renouvelle son engagement à réduire les factures d'électricité au milieu d'un jeu de blâme entre les travaillistes au pouvoir et l'opposition fédérale sur cette crise énergétique. Le drapeau aborigène flottera en permanence sur le Sydney Harbour Bridge d'ici la fin de l'année. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord l'athlétisme et les temps forts du meeting de la Ligue de Diamants de Paris. Et on est en compagnie de Christophe Diremzian et de Sofiane Amazian pour Radio France Internationale.
Celle du 100 mètres féminin en l'occurrence et victoire superbe en plus de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser.
Oui, un temps canon, Christophe, et un record du meeting dans la poche. Shelly-Ann Fraser-Pryce, la Jamaïcaine, a enflammé la piste parisienne. Vous l'avez dit en sommaire, 10 secondes et 67 centièmes, référence cette année. De l'autre, l'Ivoirienne, Marie-Josée Talou, plutôt moyenne au départ. Elle a fini très très fort. Pourtant, elle termine troisième, mais réalise le meilleur temps de sa saison en 11 secondes et 1 centième, soit 3 centièmes de moins qu'à Rabat la semaine dernière, on le rappelle, et c'est 11 secondes et 4 centièmes. Autre athlète africaine sur la piste, la Gambienne Dinabas, championne d'Afrique, on le rappelle, sur la distance il y a quelques jours. Elle se classe 8e en 11 secondes et 24 centièmes.
Voilà pour les bonnes performances du côté du sprint africain. En revanche, petite déception ce soir du côté du Burkinabé, Hugues Fabrice Zango au triple saut.
une quatrième place, Christophe, avec un saut mesuré à 17,25 m, assez loin derrière le vainqueur de l'épreuve, le Cubain Jordan Diaz, et ses 17,66 m. Alors il faut le rappeler, hein, le Burkinabé se remet d'une blessure. Il a plutôt été prudent lors de ses sauts. Il n'a jamais été réellement à la lutte pour la victoire. Mais le champion d'Afrique en titre est plutôt satisfait de son concours.
La place importait peu en fait aujourd'hui. Ce qui importait, c'est de prendre un maximum d'informations. Et donc pouvoir sauter sans douleur, ça c'était la première chose. Je suis vraiment très content de pouvoir sauter sur tout mon élan. Donc c'est la première compète sur tout mon élan. Après ma blessure de cet hiver, j'ai pris des informations et ça c'est une très très bonne chose. Donc je suis vraiment très content de pouvoir sauter sans douleur et je pense que les choses se mettront en place d'elles-mêmes d'ici au monde.
Il y a Hugues Fabrice Zango qui sera évidemment l'une des têtes d'affiche des championnats du monde à Eugene aux États-Unis.
Un mot maintenant sur les mondiaux de natation à Budapest. Christophe Diremzian. RFI.
Duna Arena de la capitale hongroise a ouvert ses portes pour une semaine de championnat du monde de natation, une édition ajoutée au calendrier en début d'année par la Fédération internationale qui manifestement n'en pouvait plus d'attendre que se tienne sa compétition phare initialement prévue au Japon en 2021 mais décalée deux fois à cause des Jeux de Tokyo et du Covid et désormais programmée l'an prochain. 5 finales au programme de cette première journée. Et déjà une belle surprise pour l'équipe de France, pourtant venue en Hongrie avec des ambitions assez mesurées. Elle décroche une première médaille d'or grâce à la révélation d'un de ses jeunes talents. Il s'appelle Léon Marchand, il a remporté la finale du 400 mètres 4 nages dans un temps incroyable, 4 minutes 4 secondes et 28 centièmes, nouveau record d'Europe. Il pulvérise son propre record de France de plus de 4 secondes. Ce Toulousain d'à peine 20 ans, parti s'entraîner dans une université en Arizona sous les ordres de Bob Bowman, l'ancien entraîneur de la légende américaine Michael Phelps, a vécu un moment au-delà de toutes ses espérances.
Moi, je suis venu ici pour faire une finale, essayer de faire une médaille le soir, mais je ne pensais pas être aussi déterminé et aussi rapide dans l'eau. Et là, franchement, c'est trop cool. Je suis vraiment surpris déjà de mon temps. Puis j'ai gagné, quoi, donc je suis champion du monde, ça c'est vraiment énorme. Et ouais, je pense que j'ai bien géré le stress de la finale. J'ai réussi à vraiment m'éclater la dernière 100 mètres, j'étais à fond. C'était vraiment, vraiment kiffant. J'ai une grosse partie à Nicolas Castel, que je m'entraînais avec lui à Toulouse depuis le début. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a appris tout. Et c'est sûr que Bob, cette année, j'ai appris pas mal au niveau de mes défauts. Je m'entraîne toute l'année pour ça. Je me lève à 5h du mat pour ça. Donc au final, ça paye, je pense, le travail paye. Et je suis content de le faire ici devant plein de personnes dans une piscine magnifique et je pense que c'est au bon moment. Ouais.
Léon Marchand, vainqueur devant deux Américains, Carson Foster et Chase Callis, mais les États-Unis ont largement de quoi se réjouir par ailleurs puisqu'ils obtiennent deux titres, celui du 400 mètres féminin pour Kathy Ledecky, l'une des reines de la spécialité, et celui du relais 4x100 mètres masculin avec notamment Caleb Dressel, le quintuple médaillé d'or aux Jeux de Tokyo. Bon démarrage également de l'Australie avec deux sacres, Elia Winnington sur 400 mètres masculin et l'équipe féminine du relais 4x100 mètres. 4 nouvelles finales au programme demain et une nouvelle possibilité de médaille pour la France avec Marie Vatel qualifiée sur 100 mètres papillon en ayant obtenu le deuxième meilleur temps sur l'ensemble des demi-finales. 56 secondes 80 pour la championne d'Europe en titre.
On passe au rugby avec les demi-finales du top 14 en France avec la victoire de Montpellier contre Bordeaux 19 à 10. Vendredi, Castres a battu Toulouse 24 à 18. Tennis, le tournoi de Queens avec en demi-finale hier, victoire de l'Italien Berrettini contre le Néerlandais Van de Zandschulp en deux manches, 6-4, 6-3. Et Krinovic, le Serbe, a battu Cilic, le Croate, 6-3, 6-3. À Halle, en Allemagne, en demi-finale, la victoire de Hurkacz, le Polonais, contre Kyrgios, l'Australien, en trois manches, 4-6, 7-6, 7-6. Medvedev, le Russe, lui, s'est imposé contre Ote, l'Allemand, en deux manches, 7-6, 6-3. Chez les dames, à Berlin, Bencic, la Suissesse, s'est imposée contre Sakkari, la Grecque, 6-7, 6-4 et 6-4. Et Once Jabeur, la Tunisienne, s'est imposée contre Goff, l'Américaine, en deux manches, 7-6, 6-2. À Gaïba, en Italie, Van Jutvink, la Belge, s'est imposée contre Tan, la Française, 7-6, 6-3. Erani, l'Italienne, a éliminé Paris, la Française, en deux manches, 6-3, 6-4. On passe au foot avec la France qui jouera dans sa poule contre la Tunisie à Doha pour la Coupe du Monde de 2022. La Tunisie, une équipe en pleine forme en ce moment, comme nous l'explique Martin Guèze pour RFI.
Qui n'a plus perdu depuis sa défaite en quart de finale de la CAN en janvier face au Burkina Faso. Djalel Kadri est arrivé sur le banc et depuis, les Aigles de Carthage planent à nouveau. Un succès, un nul en éliminatoire pour la CAN 2023. Une victoire finale surtout lors de la Kirin Cup, organisée à Osaka au Japon, un tournoi amical. 2-0 face au Chili en demi, 3-0 contre les Japonais en finale. Les Aigles ont le vent en poupe et Djalel Kadri espère que ça durera au moins jusqu'au Mondial.
C'est une victoire importante, le mérite revient aux joueurs. Ils ont disputé 4 matchs en 12 jours. Ils affichent une excellente forme physique malgré la phase délicate qu'ils traversent sur le plan mental en cette fin de saison. Maintenant, il faut avancer et rester concentré sur les prochaines échéances, notamment le Mondial. Nous voulons atteindre les 8e de finale pour la première fois. Ce sera très difficile, mais nous voulons que notre rêve devienne réalité.
La Tunisie qui défiera la Coupe du Monde, le Danemark, l'Australie et l'équipe de France.
Quelles sont les chances d'une équipe africaine de remporter la Coupe du Monde en 2022? Précision de Hugo Moissonnier pour RFI.
Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est la phrase préférée de ceux qui aiment le football, mais pas les statistiques. Elles pourraient revenir sur pas mal de lèvres en Afrique ces prochaines semaines. Sur les 5 représentants du continent au Qatar, Opta estime que, selon ses calculs, le Sénégal est l'équipe qui a le plus de raisons d'espérer. Et encore, avec seulement 0,19% de chances de soulever le trophée en décembre prochain, les champions d'Afrique n'ont pas vraiment de quoi sourire en découvrant cet étonnant classement. Même une victoire du Qatar, pays hôte, est plus probable selon Opta. Au moins les Sénégalais sont devant le Ghana, 0,2% de chance, devant la Tunisie et le Maroc, 0,01% de chance chacun, ou encore devant le Cameroun, carrément tout en bas du tableau avec 0% de chance de remporter une Coupe du Monde. Toujours selon les projections d'Opta, la France devrait se succéder à elle-même. Pourtant, les récentes éditions du Mondial ont vu les différents tenants du titre sortir dès la phase de groupe. En football, tout est possible, selon un autre adage.
On passe au marché des transferts. Aurélien Tchouaméni arrive au Real Madrid. Il a signé pour 6 ans. Pierre Chaperon, RFI.
Son nom est encore difficile à prononcer pour les journalistes espagnols.
On aimerait savoir comment se prononce ton nom et ton prénom.
Mi nombre y apellido es Aurélien Tchouaméni.
Pourtant, le français veut marquer l'histoire du football.
Quand j'ai su que le Real et le Madrid étaient intéressés par moi, j'ai vraiment pas hésité parce que c'est le plus grand club du monde. Je suis persuadé que c'est le bon choix.
À 22 ans, le milieu de terrain, bien que courtisé par plusieurs cadors européens, a fait le choix du Real. Même Kylian Mbappé n'a pas réussi à le faire changer d'avis.
Il a voulu prendre un peu la température, savoir s'il y avait la possibilité que je vienne à Paris. Mais comme je lui ai dit dès le début, mon premier choix c'était Real Madrid. Il a très vite compris.
Un réel défi à quelques mois de la Coupe du Monde. En venant au Real, il sera dans un club de stars avec un milieu de terrain qui a déjà gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Mais il n'a pas peur.
Forcément, c'est un défi. Après, si je mérite de jouer, je vois pas pourquoi je ne jouerai pas. C'est un challenge pour moi et j'espère que je vais remplir ce défi-là.
Quoi qu'il en soit, Tchouaméni arrive avec une énorme envie et veut déjà remplir son armoire à trophées. Quoi de mieux que le club qui a déjà gagné 14 Ligues des Champions.
Karim Konaté, lui, signe avec Salzbourg en Autriche. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
h 33 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Léo Roussel et Marianne Murat présentent le personnage de la semaine. Focus sur cet homme qui a qualifié les Socceroos pour la prochaine Coupe du Monde de foot, Andrew Redmayne.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée avec Léo Roussel. Bonjour Léo.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, Léo, vous allez nous parler d'un homme au destin un peu incroyable hein, qui a qualifié l'Australie pour la prochaine Coupe du Monde de football. Dites-nous-en un petit peu plus.
Oui, mardi matin de bonne heure, puisqu'il était aux alentours de 6h en Australie, les Socceroos ont validé leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar en novembre prochain. Et un homme s'est démarqué dans ce match décisif de barrage face au Pérou, le gardien numéro 2 de l'équipe nationale australienne, Andrew Redmayne. Il a permis aux siens de l'emporter au terme d'une séance de tir au but. Il a stoppé le tir décisif d'un Péruvien d'une technique plutôt originale.
Qu'a-t-il fait de si spécial pour qualifier son équipe ?
Eh bien, il a dansé. Non, ce n'est pas une blague, je vais vous expliquer. Il est déjà rentré en jeu de manière assez atypique. Le score était de 0-0 à la fin du temps réglementaire et également à la fin des prolongations. Le sort du match a donc dû se jouer au tir au but pour savoir qui de l'Australie ou du Pérou irait à la Coupe du Monde. Mais une minute avant la fin de la prolongation, l'entraîneur australien a tenté un coup de poker en remplaçant son gardien habituel et capitaine Matthew Ryan par le gardien numéro 2, habituel gardien du Sydney FC, Andrew Redmayne, pour la séance de tir au but. Et ce dernier avait une technique un peu particulière pour déstabiliser les tireurs adverses. Il dansait de manière, il faut le reconnaître, assez absurde. Et ça a fonctionné puisque Redmayne a stoppé le tir décisif permettant à son équipe de se qualifier. Un sacré destin pour celui qui est rapidement devenu le héros d'un pays alors qu'il pensait arrêter le football il n'y a pas si longtemps que ça.
Et pourquoi voulait-il abandonner ce sport ?
Eh bien parce qu'il traversait une bien mauvaise période dans son ancien club des Western Sydney Wanderers entre 2016 et 2017. Trop souvent remplaçant, problème de confiance en lui, on peut dire que Redmayne avait le moral dans les chaussettes. Et à cause de tout ça, mardi, il aurait pu être en train de vous servir un café plutôt que de qualifier l'Australie pour la plus grande compétition internationale de football. Car oui, à l'époque, il avait sérieusement pensé à jeter l'éponge et à se reconvertir. Il avait d'ailleurs repris des études à l'université pour devenir professeur en école primaire. Et il avait également suivi une formation de barista pour pouvoir travailler dans le café d'un de ses amis. Mais rien de tout cela, heureusement, n'est finalement arrivé.
J'imagine que sa carrière de gardien de football a ensuite redécollé, hein, n'est-ce pas ?
Oui, c'est exactement ça. En 2017, Andrew Redmayne a signé au Sydney FC et s'est installé au poste de gardien numéro 1. Il a repris confiance en lui et ses performances se sont améliorées au point qu'il a permis à Sydney de remporter le championnat national, la A-League, en 2019, déjà grâce à son étrange danse lors d'une séance de tir au but. Ses bonnes prestations lui ont ensuite ouvert les portes de la sélection nationale à l'âge de 30 ans. Andrew Redmayne, aujourd'hui âgé de 33 ans, a donc fait le buzz pour plusieurs raisons sur les réseaux sociaux ces derniers jours. D'abord parce qu'il a qualifié l'Australie qui participera à sa 5e Coupe du Monde de rang. Ensuite parce que sa danse a amusé les internautes, sa célébration aussi d'ailleurs. Mais aussi pour son histoire assez incroyable donc. Avant ce match face au Pérou, le grand barbu d'1m94 n'avait d'ailleurs joué qu'une seule fois sous le maillot de l'Australie. Il est déjà désormais élevé au rang d'icône du sport dans le pays.
Alors, après cette soirée, la vie d'Andrew Redmayne va-t-elle changer, Léo ?
En termes de reconnaissance, oui, c'est sûr. Les images de l'arrêt d'Andrew Redmayne ont déjà fait le tour du monde et le gardien a assurément conquis les fans de football en Australie. Pour autant, il le sait, il n'est pas pour l'heure le gardien numéro 1 en sélection, c'est bien Matthew Ryan qui devrait continuer à garder le but de la sélection australienne, y compris lors du premier match de l'Australie lors de la Coupe du Monde au Qatar le 22 novembre, et ce sera face à la France.
Merci beaucoup Léo de nous avoir présenté Andrew Redmayne, gardien héroïque de l'équipe australienne de football.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Chris Cody et ses musiciens de jazz seront au Phoenix Central Park de Sydney mardi prochain, 21 juin, pour célébrer la fête de la musique de 2022. Et on revient sur cet entretien avec le très francophile Chris Cody.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir à nouveau sur les ondes de SBS French, Chris Cody, le musicien de jazz australien. Bienvenue, Chris, à nouveau sur SBS.
Merci Jean-Noël, ça fait très plaisir d'être avec vous.
Vous revenez sur scène le 21 juin pour la fête de la musique.
Oui, exactement. Je suis très content pour la première fois en Australie de pouvoir assister à une fête de la musique en Australie. Parce que j'ai joué régulièrement à la fête de la musique à Paris et même en province, en France. Mais là, c'est super. On commence de mieux connaître cette fête, ce festival. Fête de la musique dans les deux sens. Hein. C'est une célébration de la musique, mais c'est aussi faire de la musique. Et ça, c'est une belle initiative cette année de la part de l'ambassade française, ouais. Le consulat, et le bon travail de Karine Maurice et Aliénor de Troissy, avec aussi toute l'équipe au Phoenix Central Park. Et ça aussi, c'est un lieu, pour ceux qui connaissent pas, un lieu magnifique. C'est des anciens dépôts, je crois, qui avaient été peut-être incendiés, qui étaient dans un mauvais état. Et Judith Nielsen, qui est une philanthrope et la propriétaire du White Rabbit Gallery, un musée d'art contemporain à Sydney assez connu, elle a transformé ces lieux dans un espace... d'un point de vue architectural, mais aussi, comment dire, lyrique même, en un espace vraiment unique et magnifique. C'est comme un nid d'oiseau inversé ou l'intérieur d'un bateau. Ça m'a fait penser un petit peu à ça aussi. C'est-à-dire que c'est tout l'extérieur, c'est en béton massif, mais avec ces sculptures en bois à l'intérieur, chaque espace est sculpté avec des passages d'eau et des niveaux variés, avec des points de vue étonnants à l'extérieur et à l'intérieur. Et acoustiquement, c'est superbe. Ils ont aussi un très très beau piano Fazioli. Donc ça fait 4 ans, je crois, maintenant qu'ils produisent des concerts, des danses, des chorégraphies de danse contemporain, un lieu d'exposition d'art souvent contemporain, mais pas forcément. Et donc je vais jouer ma suite avec son thème français, Astrolabe, qui a été inspiré par le navigateur Jean-François de Gallo, comte de la Pérouse. Donc il y a un thème français. C'est justement ça. Musicalement, je voulais représenter des cultures diverses, la rencontre des cultures entre un ancien monde et ce nouveau monde. Donc ça me représente bien être pris un petit peu entre deux mondes, entre la France et l'Australie.
Et donc vous revenez sur ce voyage de la Pérouse à bord de l'Astrolabe et cet album que vous avez enregistré il y a pas si longtemps.
Exact. Oui, c'est l'album que j'ai fait il y a 2 ans. On continue à faire des concerts. Ça a été un peu difficile avec Covid et les lockdowns ici en Australie. Mais musicalement, c'est vraiment un voyage qui parle de la France comme la Pérouse lui-même et qui va à la rencontre d'autres climes, d'autres cultures, d'autres ambiances. Un voyage qui malheureusement a terminé dans la tragédie parce, ouais. Puisque les navires ont été perdus en mer. Un grand mystère qui a duré un bon moment en Australie, en Europe, dans le monde entier, je veux dire. Même Louis XVI, avant d'être guillotiné, a demandé « Y a-t-il des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Donc j'ai trouvé ce voyage vraiment un récit fabuleux, un récit qui a survécu grâce au journal de bord gardé, écrit par la Pérouse, et qu'il a donné des copies aux Anglais en arrivant. Après Captain Arthur Philip, 3 jours seulement après, ici à Sydney, à Botany Bay, il y a 200 ans. Donc c'est une histoire extraordinaire et musicalement, on cherche à capter un petit peu ses émotions et à les transmettre au public.
Et ce sera bien pour la fête de la musique le 21 juin.
Exactement, pour le 21 juin, et j'espère qu'il y aura d'autres concerts. Je sais que l'Australian Music Association commence à organiser aussi des concerts et faire connaissance de cette fête de la musique en Australie, mais aussi dans d'autres pays du monde, on commence à en parler, à apprécier de plus en plus. Et c'est 40 ans après, évidemment, que Jack Lang a donné le coup de départ à la première fête de la musique. C'était dans l'époque mitterrandienne. Donc, c'est que, quand on pense que ça fait déjà 40 ans que la fête de la musique est avec nous.
Absolument. Et je signale aussi que les Alliances françaises organisent aussi des concerts autour de la fête de la musique.
Oui, exactement. Et ça, c'est, je pense aussi avec la collaboration de l'Australian Music Association, ils vont faire une transmission directe, même aussi, je crois, des images de mon concert à travers le monde autour du 21, le 21, 22, 23, pendant deux, trois jours.
Ce week-end.
Voilà, exactement. On peut regarder, écouter et découvrir d'autres concerts, d'autres musiques un peu partout dans le monde. Donc c'est une initiative fabuleuse.
Et vous avez d'autres projets pour 2022, Chris Colley, peut-être avec des concerts autour du pays?
Oh oui, après ces deux concerts-là, après je vais rentrer en studio pour enregistrer. Je pense que j'en avais parlé avec vous la dernière fois d'un projet qui s'appelle The Outsider, l'étranger, inspiré par l'œuvre de Camus. Et c'était une réflexion sur nos expériences sous Covid. La liberté, la maladie, la peur, la mort, mais aussi le sens de communauté, le courage, l'importance de faire quelque chose. Et donc c'est une musique inspirée un peu par les sons et les couleurs des pays maghrébins, l'Algérie où Camus a grandi, et d'autres pays en Afrique que j'ai visités. Donc c'est une musique très différente à l'Astrolabe de la Pérouse, mais ici c'est plutôt, oui, c'est plutôt ensoleillé, on peut dire, avec des couleurs africaines et de la Proche-Orient. Donc ça va être au mois de juillet. Et j'espère la sortie de l'album se fera avec des concerts naturellement avant la fin de cette année.
Très bien. Et toujours un plaisir de vous parler, Chris Colley, et bonne continuation.
Merci beaucoup, Jean-Noël. Et je vous tiendrai au courant pour la suite, mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la musique en Australie.
À bientôt sur SBS. Merci à vous, Chris.
Merci. Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Un rappel des grands titres de ce 19 juin, le gouvernement australien renouvelle son engagement à réduire les factures d'électricité au milieu d'un jeu de blâme entre les travaillistes au pouvoir et l'opposition fédérale sur la crise énergétique. Le drapeau aborigène flottera en permanence sur le Sydney Harbour Bridge d'ici la fin de l'année. Et puis le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine pourrait continuer pendant des années. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. On se quitte avec la grande Sophie, la mère. Belle journée, à bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.